Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours numéro 118. Et oui, toutes les semaines, normalement. Hein. Une émission de compte à rebours, une émission d'histoire et parfois des nouvelles, comme aujourd'hui, une fois de plus, avec des nouvelles de Serge Pey. Serge Pey, poète, on l'a vu à Saint-Antonin, il reviendra sans doute, toujours vivant, bien sûr, et qui a écrit un recueil de nouvelles, Le Trésor de la guerre d'Espagne, sur ses souvenirs d'enfance, autour de sa vie près de la frontière franco-espagnole. Et il raconte ses souvenirs. Et comme aujourd'hui, j'ai choisi deux longues histoires, bien, je vais démarrer sans plus attendre avec le linge. Et l'étendoir. Précisons une chose, c'est que on aura des musiques de jour. Donc, le groupe Jour, donc voilà, une fois de plus, c'est Jour de Paix, il fallait la faire. Le linge et l'étendoir. Les voisins pensaient que ma mère était folle. Comment comprendre qu'elle étendait parfois le linge sur l'étendoir ou dans le champ, à même l'herbe, ou encore sur les branches des arbres? Comment concevoir qu'elle le posait souvent à l'ombre ou en plein vent, maintenu par de gros cailloux comme les points de ponctuation d'une phrase secrète? Ainsi ce matin, ma mère avait sorti les fleurs car le soleil était de retour. Ce soleil qui disparaissait parfois sous le soleil et qu'on cherchait alors dans toute la maison, dans la poussière, sous le lit, dans un livre ouvert à sa page déchirée, sous un soulier perdu. Ouvrir le jour, c'était procéder à un rituel particulier. On cherchait le feu, le grand fagot du soleil préparé à chaque instant la fête de midi. Il y avait des jours qui commençaient comme la nuit. On entendait des chants de chouettes rouges, des tintements de cloches sans lieu, des claquements de volets et même des chants de liberté cachés dans les caves. Mais ce jour-là, il avait fait jour dans le jour parce qu'il avait fait jour aussi dans la nuit. Ma mère avait sorti les fleurs comme pour donner permission à l'horizon de s'étendre, car la tramontane avait été forte. Et que maintenant, le calme régnait dans les branches des arbres comme un oiseau. Ma mère, en sortant les fleurs, à l'abri dans le couloir, disait au soleil qu'il fallait se lever. J'ai appris à lire en mangeant les lettres dans la soupe, la petite écriture du petit sens. Mais ma mère lisait la terre, car les empreintes étaient des écritures de la nuit. Avec les traces sur le sol, autour de la maison, elle savait qu'un renard était passé sur le chemin, ou un chien, ou un vélo. Ma mère lisait si bien les empreintes sur la terre que je croyais qu'elle venait de l'avenir. Parfois, elle désignait un vol d'oiseaux dans le ciel qui volait plus loin que les oiseaux. Ma mère appelait des voyelles avec ses fleurs et avec ses chats. En étendant le linge, elle écrivait des consonnes pour faire sonner le monde. Elle dictait avec nos draps et nos chemises des phrases que le ciel seul comprenait. Je voyais par la fenêtre mes pantalons, comme des lettres, faire signe au camion sur la route au feu inconnue des bergers. Ce matin, ma mère semblait chanter pour un dieu illettré qui vomissait ses cris comme des voyelles. Tout était convoqué. Le croassement d'un corbeau, le sifflet d'un rémouleur, un avion perdu, un conteneur rempli d'armes, le cri d'un nuage blanc qui défaisait son visage provisoire. plus particulièrement, ce matin, ma mère avait enlevé le linge de l'étendoir et l'avait couché sur l'herbe, puis était partie allumer un feu à l'autre bout du champ. La folle fait sécher son linge dans la fumée, dirent les voisins. Ma mère étendait vraiment son linge n'importe comment. Elle ne respectait pas les saisons. Elle ne le rentrait pas lorsqu'il pleuvait. Parfois, elle le laissait exposer aux rôdeurs de la nuit. Alors que l'étendoir était vide, elle disposait souvent le linge sur l'herbe pleine de rosée. Mais ce que les voisins ignoraient, c'était que ma mère n'étendait pas le linge. Elle faisait des signes. Les draps étendus sur l'herbe et maintenus par des pierres signifiaient que le passage était libre et que l'on pouvait descendre de la montagne sans danger. Si elle laissait une paire de pantalons orphelins sur le fil, il fallait se tenir sur ses gardes, car la police attendait au carrefour des deux vallées. Quand ma mère n'accrochait que des robes sur la corde, elle notifiait que les colis de journaux étaient arrivés. Un drap seul sur l'étendoir avec une jupe rouge signalait l'arrivée des armes ou d'un colis dangereux. Une couverture indiquait qu'on pouvait accueillir quelqu'un pendant la nuit. Elle seule avait le droit de manifester que le passage était libre et qu'ainsi les hommes du soleil pouvaient descendre dans la vallée. Ma mère ne parlait pas, elle cousait. C'était son métier. Elle avait des épingles plein la bouche. « Maman, j'ai éteint le feu de l'autre côté du champ. Alors va enlever les draps maintenant et laisse les pantalons sur le fil. » Je connaissais quelques codes. La chemise de mon père voulait dire « passer derrière le cimetière ». La jupe de ma sœur, attention, personnage suspect. Un pantalon avec une jambe repliée. Réunion après-demain, comme convenu. Ma mère avait appris le langage secret du linge séché. Elle me l'avait enseigné. Elle était la maîtresse des voyelles de l'interrogation, des consonnes clandestines et des conjugaisons réalisées avec des lacets de chaussures. Les grammaires de silence, les concordances d'espace et non de temps, les conjonctions de coordination nouvelles, les accords de participes passés entre des auxiliaires qui n'étaient ni le verbe être ni le verbe avoir, n'avaient aucun secret pour elle. Car elle était le secret. Mais ce matin, alors que je prenais mon déjeuner, elle se précipita soudain vers moi et murmura « Vite, enlève ta chemise et va l'étendre sur l'étendoir. Ramène le linge qui reste, vite, vite, dépêche-toi. » Je compris sa précipitation quand je vis depuis notre jardin qui surplombait la route une longue file de camions bleus de la gendarmerie. Ainsi, ma chemise faisait partie, elle aussi, d'une longue phrase. Elle était une lettre, peut-être un mot. J'étais fier. J'étais devenu une conjugaison, presque un verbe. J'existais dans le langage secret de ma mère, comme un mot important qu'elle n'avait encore jamais employé, puisque c'était la première fois qu'elle voulait laisser ma chemise seule sur l'étendoir. Ainsi, moi aussi, avec ma chemise, je parlais à la montagne. Ma chemise était un signal et prévenait ceux de l'autre côté. Je courus vers l'étendoir, torse nu, les camions sur la route, juste derrière la grange déversée des dizaines de gardes mobiles armés de mitraillettes. Leur chef m'interpella alors que je venais d'accrocher ma chemise et que je ramassais les draps posés à même l'herbe. « Tu vis où ?» Je lui répondis en désignant la maison derrière moi. Il me demanda si j'avais vu des hommes qui descendaient de la montagne. Je lui répondis que non. Puis je rentrai à la maison en observant les gardes qui se cachaient le long du mur du cimetière. Quand je passai le seuil de la porte, ma mère me débarrassa rapidement des draps qui n'avaient pas fini de sécher et se mit avec méthode à les repasser sur la table. Dans ses yeux s'installa une sorte de paix et elle se mit à chanter.
Inocencia nunca supo cómo hacer, cómo hablar o qué decir, sin reírse de su vida, incapaz hable de quitarla.
Ce jour-là, je sus lire plus loin que les livres. Ma chemise, toute seule, flottait comme un drapeau de pauvre. J'étais devenu un signal ou même un signe. Personne ne descendit de la montagne. Et les gardes sur la route étaient repartis dans leurs camions. Leurs amis de l'autre côté les avaient mal renseignés. Ma mère a toujours gardé cette habitude de la clandestinité avec le linge. Aujourd'hui, encore, comme chaque matin, elle continue à disposer ses vêtements n'importe où. Mais personne ne dit qu'elle est une folle, car personne ne la voit. Elle étend ses vêtements à l'intérieur de la maison, au-dessus des chaises et des endroits les plus invraisemblables. Elle se souvient, chaque matin, d'un temps où la liberté se faisait non avec la bouche, mais avec les mains. Aujourd'hui, ma mère fait toujours la liberté et en a gardé les signes. Ses linges éparpillés dans la cabane sont toujours des lettres inconnues pour que le ciel, à travers la fenêtre, puisse continuer à lire. Il y a toujours du linge pendu dans la pièce unique où elle vit, car il faut toujours guetter pour aider le ventre de la liberté à accoucher d'un instant à l'autre d'un nouvel enfant. Elle attend toujours dans sa cabane un compagnero venu de l'autre côté, exténué, avec un gros sac qui descend par la vallée. Ses mots sont toujours des pantalons, des draps de lit, des pullovers déchirés, des robes noires comme des drapeaux, des sous-vêtements, des bleus de travail, des couvertures trouées. La montagne, aujourd'hui, est à l'intérieur de sa cabane. Et sa liberté aussi. Je me dis qu'encore ici, elle aide ceux de l'autre côté à passer. Car même si on ne les voit pas et qu'il n'y a plus d'autre côté, les gardes sont partout et il faut signaler leur présence. Je ne veux plus que le docteur vienne la voir. Ma mère a toute sa raison. C'est le docteur qui ne comprend pas. La guerre civile n'est pas encore finie.
Llévatela lejos de los mares para que cante ese cantar alegre, ese cantar tan suyo que es mío.
Et maintenant, le voleur de cerises. Les oiseaux se sont arrêtés de vérifier les ombres. À travers les feuilles, la lumière s'écoule comme une source noire. Derrière moi, une abeille boit le temps. Mes mains accrochent la dernière pierre du mur et je me hisse en silence sur le cerisier. Voler une cerise est un rite de la liberté. L'enfant et le voleur sont de la même famille. Manger une cerise, c'est la voler. Mais ce matin, depuis une heure, je ne vole pas. Je mange les cerises de mon oncle, qui est Gibraltar, l'oncle de la mer. Maman m'a envoyé chercher des sarments chez lui pour la grillade des escargots. Mon oncle habite dans une décharge derrière la coopérative. Sa maison est entourée d'une palissade de vieilles planches et de pneus liés par des fils de fer. Un puits au fond du jardin fournit une eau sableuse et salée que nous filtrons avant de la boire. Oncle Gibraltar est petit et noir. Ses doigts tordus comme des racines de réglisse caressent un chien éternel assis entre ses pieds. J'ai toujours vu mon oncle dans son jardin en train de travailler la terre. Oncle Gibraltar vient de très loin, peut-être du nom qu'il porte. Ce n'est pas le mari de ma tante. Ils sont à la colle depuis la guerre civile. Il est mon oncle par alliance. il ne faut pas le dire qu'il n'est pas marié à ma tante. Dans son jardin, mon oncle a planté 12 arbres en cercle, comme les chiffres d'une horloge, et dont les ombres, pour un observateur attentif, sont de véritables aiguilles du temps. Au centre, s'épanouit un figuier majestueux sous lequel il s'abrite du soleil du printemps à l'automne. Assis sur les fauteuils d'une vieille voiture désossée, il regarde depuis son trône son ombre qui tourne et s'allonge vers ses souvenirs jusqu'à les renverser comme s'il venait de l'avenir. Oncle Gibraltar m'avait vu venir de très loin. Quand je fus prêt à quelques pas de son ombre, je lui dis en guise de salut « Maman m'a envoyé chercher des sarments pour les escargots ». Il ne me répondit pas, mais il me désigna le cerisier en m'invitant à cueillir les fruits. J'avais avec moi deux sacs, je comptais bien en ramener quelques-unes à la maison. Évidemment, je m'empiffrais comme une bête, en faisant attention de ne pas avaler les noyaux ou une abeille, dont j'étais devenu un concurrent sérieux et attentif. Je sentais oncle Gibraltar derrière moi. Il était fier que je mange ses cerises. Enfin, après un moment, sans que je le visse approcher au pied de l'arbre, il me dit « Tu ne sais pas ce que tu manges ». Je lui répondis évidemment que si, et que je mangeais des cerises. « Non, tu ne manges pas des cerises. C'est Guillermo que tu manges. Cet arbre, ce cerisier, s'appelle Guillermo, Guillermo Ganuzza. Tu manges Guillermo Ganuzza. » Je ne comprenais pas. Je me demandais pourquoi mon oncle donnait des prénoms d'hommes aux arbres, bien que j'en connusse certains au village qui en donnaient aux chiens. Bien sûr, depuis longtemps, j'avais vu que certains arbres avaient à leur base une petite pancarte écrite soigneusement au feu sur laquelle figurait un nom énigmatique. J'avais cru, comme mon oncle se piquait de botanique, que c'était le nom de chaque arbre en latin ou celui d'un désherbant, que je ne m'étais jamais donné la peine de lire. Cet arbre a pour nom Guillermo Ganuzza Navarro. Tu n'as jamais lu l'étiquette? Tu le bouffes depuis des années et tu ne sais pas son nom. Chaque arbre est un homme ici. Regarde et lis à haute voix ce qui est écrit. Je déchiffrai l'écriture de mon oncle et je lus en détachant chaque syllabe, l'inscription à la base de l'arbre. Guillermo Ganuzza Navarro. Intrigué, je fis le tour du verger. Sous le pêcher, l'écriteau indiquait simplement Joseph Sabate Léopard. Le pommier portait le nom d'Antonio Franchesa Funoy. Le poirier, c'était Simon Gracia Fleringan. Le prunier, Joseph Lopez Penedo. Au bas du citronnier, il y avait une roue de bicyclette et sur chaque rayon, une lettre en carton. On déchiffrait en petites capitales appliquées « Francisco Sabate ». Gravé sur un abri pour oiseaux pendu dans l'oranger, flamboyaient les lettres de « Francisco Denis Diez ». Le châtaignier se nommait « Francisco Martinez Marquez ». Dans l'abricotier souriait la photo de Martin Ruiz Montoya avec la mention spéciale Barcelone. Directement sur l'écorce de l'olivier, mon oncle avait gravé Ramon Villa Capdevila, Caraquemada, et avait écrit en grosse capitale Viva. Sur le platane, une écorce avait poussé sur le nom qui laissait deviner les dernières lettres d'un prénom, Ablo. Mon oncle avait planté un arbre pour chacun de ses compagnons du réseau qui avait été assassiné entre 1949 et 1960. Et celui-ci, lui dis-je, en désignant le noisetier qui n'avait aucune pancarte. Celui-ci, c'est moi. Tu graveras mon nom quand je serai parti. Il ne fallait pas dire, le vrai nom de mon oncle. C'était un secret. À cause de la police, avait dit mon père. Je ne le dis pas encore aujourd'hui, on ne sait jamais. On l'appelait toujours entre nous le Tiet Delmar ou Oncle Gibraltar. Il faisait des confitures avec les fruits de ses arbres qu'il distribuait à l'entrée de l'hiver pour la solidarité et les enfants des prisonniers politiques. On ne le voyait qu'au printemps quand les arbres fleurissaient. Il était content quand je mangeais ses cerises. Pendant longtemps, je ne me suis souvenu que de cela. Puis après, me sont revenus d'autres moments qui semblaient surgir de l'avenir. C'est peut-être ici que m'a saisi l'idée fantasque d'écrire des paroles sur des branches d'arbres. Ce matin, je pense à l'arbre, et au petit de l'arbre, au lait de l'arbre, à la mère de l'arbre. Je récite tous les arbres qui ont perdu leur nom d'homme dans les forêts. Je vois encore mon oncle, oncle Gibraltar, avec des bras chargés de pommes, qui n'étaient pas des pommes, mais des têtes d'hommes. Maintenant qu'une lessive de sang bout dans un lavoir à drapeau, maintenant qu'il n'y a plus d'arbres, maintenant que les morts nous tiennent les jambes pour que nous restions debout, maintenant que je suis immobile en regardant des petits passés que je prends parfois pour le présent, maintenant qu'il n'y a plus de drapeau. En m'appliquant, lettre par lettre, je grave sur le noisetier Tiet Delmar. Pas son vrai nom, on ne sait jamais. En regardant couler la sève, je m'enfonce dans ses yeux en crachant des noyaux de cerises, comme des souvenirs ou des balles de pistolet. Margarita, une amie de la famille, dit souvent encore en entrant dans le jardin, « Nous avons de vieux pistolets, mais nos balles sont capables de faire des trous tout neufs. » Compte à rebours, c'est terminé pour aujourd'hui. Des histoires de Serge Peyde, extraites du Trésor de la guerre d'Espagne, des musiques de jour. Eh bien, peut-être on y reviendra, tout ça, ou bien ce seront d'autres histoires, la semaine prochaine en tout cas. Ciao, c'était Marco, compte à rebours.